Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une pause fiscale sur les carburants, le gaz et l'électricité, c'est ce qu'Édouard Philippe va tenter de justifier aujourd'hui à l'Assemblée nationale, demain au Sénat. Un geste qui apaise les gilets oranges, les professionnels du BTP, mais pas les gilets jaunes. Vous l'entendrez, ils continuent d'occuper le terrain et appellent toujours à manifester samedi à Paris.
Cette pause fiscale représente 2 milliards d'euros de manque à gagner pour les finances publiques. Comment compenser ce manque tout en restant dans les clous budgétaires européens ? Casse-tête, vous l'entendrez.
C'est un signe de l'extrême faiblesse de Theresa May au Royaume-Uni. Son gouvernement a perdu hier un vote clé sur le Brexit. Les députés ont estimé que l'exécutif avait commis un outrage au Parlement en refusant de publier l'intégralité d'un avis juridique sur le texte négocié pendant plus d'un an et demi avec Bruxelles. Dans ce journal, encore un texte non contraignant qui crispe l'extrême droite en Europe notamment. Le pacte des Nations Unies pour les migrations doit être ratifié la semaine prochaine au Maroc. Témoignage d'un Sierra Léonais qui a fui son pays pour la France. Anne-Laure Chouin l'a rencontré à Grande-Synthe dans le Nord.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, le système fiscal français est-il inégalitaire ? On posera la question à un économiste, François Bourguignon.
Pas de hausse des taxes au 1er janvier sur les carburants, le diesel, l'essence et le fioul. Pas d'augmentation non plus des tarifs du gaz et de l'électricité pour les 6 prochains mois. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Édouard Philippe pour tenter de calmer la colère des gilets jaunes. Cette suspension de hausse des prix représente jusqu'à 300 à 400 euros d'économie par an pour les ménages, selon les calculs de l'association de consommateurs CLCV. Insuffisant pour les gilets jaunes toujours mobilisés à Sens.
J'appelle pas ça des annonces puisque c'est un recul de 6 mois. Donc ça permet aussi pendant ces 6 mois de préparer leurs élections. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a les élections européennes. Faut pas nous prendre non plus pour des imbéciles.
Clairement ça arrive trop tard. Aujourd'hui on n'en est plus à 6 centimes sur le carburant.
C'est pas ça qu'on attend. Qu'ils baissent leur train de vie à eux. Suffit les privilèges.
Tout ce qu'on veut, c'est avoir des salaires décents. Se dire, on vit correctement à l'heure d'aujourd'hui avec notre propre revenu.
La seule façon de rétablir un peu de calme et de sérénité dans la population, c'est de rétablir une certaine égalité fiscale.
Des gilets jaunes au micro de France Bleu Auxerre, des gilets jaunes qui préparent aussi l'acte 4 de leur mobilisation. Une nouvelle manifestation à Paris samedi. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner prévoit des renforts côté forces de l'ordre, des policiers plus mobiles surtout. Il invite les gilets jaunes raisonnables à ne pas se rassembler à Paris. Autre signe de la tension qui persiste, Emmanuel Macron a été sifflé et insulté hier soir lors d'une visite surprise au Puy-en-Velay, là où la préfecture de Haute-Loire avait été incendiée samedi dernier. Le chef de l'État, pris à partie par des dizaines de manifestants. Elle a tenté d'éteindre la colère sociale sur le plateau de France 3 hier. Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, affirme que si aucune solution n'est trouvée à l'issue des consultations sur la fiscalité des carburants, le gouvernement fera alors une croix sur la hausse des taxes.
Ce qu'a dit le Premier ministre, c'est pas juste qu'il y avait une pause, c'est qu'on gèle véritablement toutes les hausses qui étaient prévues sur les taxes, les dispositions du contrôle technique, etc. effectivement pendant 6 mois et qu'on se donne 6 mois ensemble pour dialoguer et trouver une solution commune. Et que si on ne trouve pas de solution, il a dit qu'on en tirerait les conséquences. En bon français, ça veut dire qu'on supprime et qu'on renonce définitivement à toutes ces hausses de taxes si on n'a pas trouvé de solution commune et collective, vous et nous et tous les citoyens.
Moi, j'ai pas entendu ça. J'ai dit on allait tirer les conclusions. Vous nous traduisez la parole du Premier ministre en disant...
Voilà, je vous traduis le Édouard Philippe. Ça veut dire que si on ne trouve pas de solution pendant ces grandes consultations citoyennes dont chacune et chacun devra s'emparer, eh bien, on arrêtera à ce moment-là et on mettra une croix sur cette hausse des taxes.
Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, hier sur France 3. La méthode du gouvernement en débat cet après-midi à l'Assemblée. Édouard Philippe se retrouvera face aux députés pour expliquer son plan de sortie de crise. La suspension donc de la hausse des taxes sur les carburants, des tarifs du gaz et d'électricité et le renoncement également à un contrôle technique plus poussé sur les voitures. Des gestes déjà appréciés par les gilets oranges, les entrepreneurs du BTP qui bloquaient des dépôts pétroliers à Brest et à Lorient. Ils ont levé leur blocage hier alors que la pénurie de carburant commençait à gagner le Finistère, le Morbihan ainsi que les Côtes d'Armor. Le geste du gouvernement qui ne convainc pas en revanche les fédérations CGT et FO du secteur du transport routier. Elles appellent à une grève illimitée à partir de dimanche soir 22h pour défendre le pouvoir d'achat. Les deux syndicats qualifient de miettes les annonces hier d'Édouard Philippe. Déçues elles aussi mais pour une toute autre raison, les associations de défense de l'environnement déplorent déplore le rendez-vous manqué du gouvernement entre la transition écologique et la justice sociale. Pour Arnaud Gossement, avocat spécialisé en droit de l'environnement, le gouvernement recule, comme sur les écotaxes, face au bonnet rouge sous le quinquennat Hollande. Mais il n'y a pas du tout... ce renoncement à une fiscalité écologique à partir du 1er janvier serait loin d'apaiser les esprits. 2 milliards de manque à gagner pour l'État, c'est ce que représente la suspension des taxes annoncées par l'exécutif. Casse-tête budgétaire alors que la France veut maintenir l'an prochain son déficit sous la limite européenne des 3% du PIB, Catherine Pétillon.
Comment l'exécutif compensera-t-il ces 2 milliards d'euros en moins sur les recettes attendues ? Par de nouvelles économies, a annoncé le Premier ministre, sans précision à ce stade, et il est difficile de voir où elles pourraient se faire tant les efforts déjà prévus sont importants, du côté de l'assurance maladie, du logement ou encore des collectivités locales par exemple. Éteindre la mobilisation sociale en demandant de faire davantage d'efforts ressemble à un exercice d'équilibriste. Or, l'exécutif compose aussi avec la contrainte européenne d'un déficit qui ne dépasse pas les 3% du PIB. Et Édouard Philippe l'a redit, pas question de sortir des clous. Politiquement, difficile de tenir un autre discours au moment où la France veut rassurer ses partenaires et asseoir ses ambitions au niveau européen. Conséquence, les marges de manœuvre seront dures à trouver et cela pourrait déboucher, faute d'alternative, sur un creusement du déficit. L'autre question, c'est, cela suffira-t-il à répondre aux demandes de justice écologique et sociale ? Certains secteurs comme le bâtiment ou les artisans, ainsi que des organisations patronales, ont salué les annonces, mais c'est plutôt colère et déception qui dominent du côté des Gilets jaunes et d'une partie des syndicats. Tous continuent à demander des choix budgétaires plus favorables, plus modestes, même s'ils l'expriment de différentes manières, hausse du SMIC, revalorisation du point d'indice de la fonction publique ou encore retour sur la réforme de l'ISF. Pour Attaque, le gouvernement ne répond, je cite, ni à la colère sociale ni à l'urgence climatique. L'association appelle à manifester avec les Gilets jaunes samedi prochain.
La colère sociale qui gagne également les agriculteurs, la FNSEA, syndicat majoritaire, doit annoncer aujourd'hui un appel à manifester pour la semaine prochaine. Par ailleurs, des dizaines de lycées ont été à nouveau bloqués hier dans les académies de Versailles, Créteil et Marseille notamment. Revendications disparates mais portées par la vague des Gilets jaunes. Les étudiants vont-ils à leur tour rejoindre la mobilisation sociale en cours ? Deux campus déjà perturbés à Paris, le site de Sancier-Sorbonne-Nouvelle bloqué depuis 24 heures, celui de Tolbiac doit l'être à partir de ce matin. L'AG a voté le blocage hier.
7h07, la suite du journal de Catherine Dutu dans les matins de France Culture. Alors que Donald Trump se gausse de la crise des gilets jaunes en France, le président des États-Unis est rattrapé par l'affaire Khashoggi.
Donald Trump qui se félicite sur Twitter de voir son ami Emmanuel Macron et les gilets jaunes arriver à la même conclusion que lui il y a 2 ans. L'accord de Paris sur le climat ne vaut rien car il fait monter le prix de l'énergie. Le même Donald Trump est contredit dans un autre dossier. Des sénateurs républicains disent n'avoir aucun doute sur le fait que le prince héritier saoudien avait ordonné le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Il s'appuie sur des informations données à huis clos par la CIA. On y revient dans le journal de 7h30. Les députés britanniques ont infligé hier un sévère camouflet à la première ministre Theresa May en estimant par un vote que son gouvernement était coupable d'outrage au Parlement pour avoir refusé de publier la totalité de l'avis juridique sur le projet d'accord de sortie de l'Union européenne. La correspondance à Londres d'Antoine Gignot.
À 3 reprises, les députés ont été consultés et à 3 reprises, ils ont voté contre le gouvernement. Ce n'était pas arrivé depuis 40 ans et c'est la première fois dans l'histoire britannique qu'un gouvernement est reconnu coupable d'outrage. Theresa May et son équipe montraient du doigt parce qu'ils ont refusé de dévoiler tous les détails juridiques qui entourent le Brexit, vont devoir maintenant publier la totalité des documents. Et à cette humiliation s'ajoute un constat, la première ministre n'a plus la majorité au Parlement. Ses alliés la lâchent au plus mauvais moment et sans le soutien des unionistes nord-irlandais, avec un parti plus divisé que jamais, difficile d'imaginer qu'elle va réussir à faire valider la semaine prochaine son accord sur la sortie de l'Union européenne. Les conservateurs rebelles ont d'ailleurs déjà commencé à anticiper une défaite du gouvernement. Ils ont fait adopter un amendement qui permet au Parlement de reprendre en main le dossier du Brexit si d'ici mardi prochain, le rapport de force n'a pas changé.
Et à l'instant, les parlementaires nord-irlandais du DUP, du Parti Unioniste Démocrate, annoncent qu'ils voteront en l'état contre l'accord sur le Brexit conclu par Theresa May. C'est un texte non contraignant, mais inacceptable pour l'extrême droite en Europe, de la France à l'Autriche, en passant par la Hongrie. Le pacte de l'ONU pour l'immigration, qui doit être ratifié à Marrakech la semaine prochaine, est censé, pour réguler les flux migratoires, favoriser la coopération entre États pour éviter donc les migrations incontrôlées. Quant aux bonnes pratiques recensées dans ce pacte pour favoriser des migrations sûres, ordonnées et régulières, elles apparaissent plutôt dérisoires, confrontées à la réalité du terrain, comme en témoignent les tourments qu'a dû affronter ce Sierra Léonais de 44 ans. Il a fui son pays pour la France. Anne-Laure Chouin l'a rencontré dans le nord de la France, à Grande-Synthe.
Ismaël, ça n'est pas son vrai prénom, a quitté son pays à 21 ans quand les rebelles sont entrés en Sierra Leone. Pendant près de 20 ans, il a vécu en Guinée sous le statut de réfugié, avant que la compagnie qui l'employait, Rio Tinto, ne le licencie. La somme qu'il avait épargnée pendant toutes ces années, Ismaël l'a donnée intégralement aux passeurs lorsqu'il a décidé de quitter la Guinée en décembre 2016.
Je suis venu à Bamako avec les cars. On est venu à Burkina Faso, Niger. On m'a arrêté là-bas. On m'a embarqué dans une pick-up avec les militaires jusqu'à la frontière burkinabé. Maintenant, je suis négocié avec les militaires. J'ai dit, je ne peux pas retourner. Je préfère mourir ici. Ils m'ont dit, ok, on peut arranger. Si tu as une petite somme, j'avais mon dernier argent, c'était 100 euros. On est rentré dans une autre ville. J'ai dormi là-bas. On est arrivé à Agadez. C'est là-bas que les Touaregs regroupent tous les passagers. On a traversé le désert maintenant pendant 5 jours jusqu'à rentrer à Saba. C'est la première ville de Libye. On est rentré à Saba direct en prison. Dès que tu viens, on te fait rentrer en prison. Si tu payes l'argent, on te fait sortir. On dort par terre. Il y a des enfants gambiens là-bas qui nous traitent. Si tu ne fais pas, il y a des armes. Ils peuvent te blesser, ils peuvent te frapper, n'importe quel. Tu ne peux rien faire parce que la loi, c'est lui qui est fort. J'ai appelé en Guinée ma sœur. J'ai dit, hey, si vous ne m'aidez pas, je vais mourir.
Suivent un voyage éreintant dans une cage jusqu'à Tripoli, et puis la mer, 120 personnes entassées sur un Zodiac qu'ils ont eux-mêmes gonflé et mis à l'eau, le sauvetage par des humanitaires en pleine mer, puis l'Italie, l'arrivée en Europe qui, dit Ismaël, marque le jour de sa deuxième naissance. Le voyage est encore long jusqu'à Grande-Synthe, où il travaille désormais à Emmaüs.
Je suis accueilli ici, je mange ici, je travaille ici, toujours il y a espoir. C'est pas facile pour le moment. À venir, ça va être facile, Inch'Allah.
S'il pouvait aujourd'hui décourager des jeunes Guinéens d'entreprendre le voyage, le ferait-il ? Lui demande quelquefois sa responsable à Emmaüs. Oui, répond-il, et il ajoute : plus jamais je ne veux connaître ce que j'ai vécu en Libye.
Reportage signé Anne-Laure Chouin. Un puissant séisme de magnitude 7,6 s'est produit ce matin au large de la Nouvelle-Calédonie. Le centre d'alerte au tsunami du Pacifique ajoute qu'il y a un risque donc de tsunami. Le temps de ce mercredi 5 décembre, marqué par un nouveau passage pluvieux sur le nord-ouest de l'Hexagone, un temps un peu plus calme sur le reste du pays. Les températures sont comprises ce matin entre 2 et 7 degrés en général du nord au sud, 7 à 11 degrés près des côtes, Guillaume Herner.
Merci Catherine Dutu, il est 7h13 sur France Culture. Dans quelques instants, la question suivante: le système fiscal français est-il inégalitaire ?